parole du jour avec le Père Willem.
Heureux ceux qui sont persécutés. Oui, voici encore quelques citations de Dietrich Bonhoeffer dont nous avons parlé tous ces jours derniers. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'être humain est entraîné dans la souffrance messianique de Dieu en Jésus-Christ des manières les plus diverses, par l'appel des disciples à la suivance, par la communauté de temple avec les pécheurs, par des conversions dans le sens précis de ce mot, tel Zachée, par le geste de la grande pécheresse en Luc 7 qui s'accomplit sans aucune confession de péché, par la guérison des malades, par l'accueil fait aux enfants. Les bergers et les sages d'Orient se tiennent devant la crèche non pas en tant que pécheurs convertis, mais simplement parce que la crèche les attire tels qu'ils sont. Le centurion de Capharnaüm qui ne prononce aucune confession des péchés est proposé comme exemple de la foi. Jésus aime les jeunes hommes riches. La seule chose qu'ils aient tous en commun, ces hommes, ces femmes, c'est leur participation à la souffrance de Dieu en Christ. C'est leur foi. L'acte religieux est toujours quelque chose de partiel. La foi est un tout. Un acte de vie. Jésus n'appelle pas à une religion nouvelle, mais à la vie. Mais à quoi ressemble cette vie? Cette vie de participation à l'impuissance de Dieu dans le monde. Il faut dévoiler la détermination sans Dieu du monde, et c'est ainsi justement qu'une lumière surprenante tombe sur le monde devenu majeur et sans Dieu. Et peut-être justement pour cette raison, plus près de Dieu qu'il ne l'était dans le monde mineur. L'Église n'est l'Église lorsqu'elle est là pour les autres. L'Église doit collaborer aux tâches profanes de la vie sociale, non en dominant, mais en aidant et en servant. Elle doit manifester aux hommes de toutes les professions ce qu'est une vie avec le Christ, ce que signifie être là pour les autres. Non, je ne cite pas le pape François, mais c'est étonnant, la proximité du pape François avec Dietrich Bonhoeffer. C'est horrible ici, écrit-il, en prison. C'est terrible que des impressions atroces me poursuivent souvent, jusque dans la nuit, que je ne me remets qu'en me récitant d'innombrables strophes de cantiques et que la journée commence par un soupir plutôt que par une louange de Dieu. On s'habitue presque trop bien aux privations physiques. On vit même pendant des mois comme si on n'avait, pour ainsi dire, pas de corps. Mais on ne s'habitue pas aux pesanteurs psychiques, au contraire. J'ai l'impression de vieillir de plusieurs années sous l'effet de ce que je vois et entends, et le monde devient un fardeau que je prends souvent en dégoût. Étendu sur ma couche, je fixe le mur gris. Dehors, un soir d'été, qui ne sait rien de moi, sur le chemin de la liberté, la mort, c'est la fête suprême. Et voici quelques prières. Prière du matin. Dieu, je t'invoque dès l'aube. Aide-moi à prier et rassembler mes pensées. Seul, je ne le peux pas. En moi sont les ténèbres, près de toi la lumière. Je suis seul, mais toi, tu ne m'abandonnes pas. Je suis découragé, mais toi, tu me secours. Je suis inquiet, mais auprès de toi est la paix. En moi est l'amertume, mais près de toi la patience. je ne comprends point tes voies, mais tu connais le juste chemin pour moi. Oui, Seigneur Jésus, tu étais pauvre et misérable, prisonnier et délaissé comme moi. Tu connais toute détresse humaine, tu restes près de moi si personne ne m'assiste. Tu te souviens de moi et viens à ma recherche. Tu veux être connu de moi, tourné vers moi. Seigneur, j'écoute ton appel et je te suis. Aide-moi. Dietrich Bonhoeffer est souvent salué comme le pasteur courageux qui a été exécuté pour son rôle dans le conflit visant à l'éliminer Hitler. Mais ce n'était pas tout à fait le cas. La grandeur de ce qu'il accomplit dans les années nazies devient patente de son implication dans les opérations contre Hitler que de sa ferme opposition au nazisme au sein de l'Église évangélique allemande, de ses efforts valeureux pour obtenir la reconnaissance internationale de l'Église confessante et de son engagement total en faveur d'une Église et d'un pays libre. Après la guerre, beaucoup de ministres du culte allemand voulurent faire reconnaître son travail pastoral et dissocier leurs collègues tombés de toute activité tyrannicide. Ils désapprouvaient fortement toutes ces activités. D'autres, au contraire, préférèrent se réjouir de son implication dans les complots anti-Hitler et détourner les yeux de la triste collusion de leur Église avec la dictature. Il était pratique de simplement transformer Bonhoeffer en une icône de l'héroïque protestantisme allemand. Que l'on puisse en faire un martyr était encore mieux. Les pays anglo-saxons ont reconnu la valeur héroïque de Bonhoeffer plus clairement et plus rapidement. Dans un sermon qu'il prononça à Londres, Monseigneur George Bell associa logiquement les deux aspects de l'héroïsme de Dietrich comme représentant à la fois la résistance de l'âme croyante au nom de Dieu et la révolte morale et politique de la conscience humaine contre l'injustice et la cruauté. Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté. Et pourtant, toute la place devrait être pour la beauté. Le poète sait que le malheur des hommes, fait tache sur la beauté du monde. L'artiste est frappé d'oubli s'il croit qu'en célébrant la beauté, il reste fidèle à la vérité des choses. Les ténèbres prévalent. La beauté est absente, mais elle est la visiteuse attendue dans nos prisons. L'inespéré pour laquelle doit veiller notre espoir, elle ne sera qu'une passante. C'est pourquoi il faut lui avoir préparé toute la place. La beauté est incendiaire, elle consume ce qu'elle illumine. Cendre et ténèbres y succèdent. Et la poésie s'obstinera à ranimer une nouvelle attente. En prison, la petite lueur nous vient chaque matin de ce Dieu qui souffre avec nous.